Africa Radio et nous.
Dieneba Dembélé.
Mieux vivre au 21e siècle.
Cette semaine, direction la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, où la croissance économique atteignait 4,4% en 2019, et ce donc avant la pandémie de Covid-19, cette croissance qui a chuté de 0,8% en 2020, d'après les estimations de la Banque mondiale. Par ailleurs, et bien que la RDC ait engagé des réformes pour améliorer aussi le climat des affaires, et bien le pays se classe quand même au 183e rang sur 190 pays dans le rapport Doing Business 2020. Nous sommes pour parler de la République démocratique du Congo et surtout des possibilités d'entreprendre et de développer le pays avec bienvenue Matumo qui est militant Lucha, chercheur en géographie sociale et politique à l'Université Paris 8 de Saint-Denis et par ailleurs étudiant actuellement en sciences politiques à l'Université Paris 1. Matumo, bienvenue, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
La Lucha, pour rappeler aux auditeurs bien qu'ils connaissent, c'est un mouvement citoyen congolais qui est donc non partisan et non violent comme vous le précisez. Et qui, par définition, lutte pour le changement.
Oui, c'est ce mouvement des jeunes qui se propose de contribuer au développement de la RDC
oui.
par un engagement citoyen et par ailleurs non partisan.
Oui.
Parce que depuis les années 90, il y a eu des jeunes qui ont milité, mais souvent c'était des engagements partisans. Et ils ont été déçus parce que leur engagement n'a pas porté le changement qu'ils souhaitaient. Et nous, c'était proposé de faire cet engagement citoyen, non partisan, non violent, dans ce contexte de violence. Rappelez-vous,
oui,
nous sommes quand même au nord Kivu, dans une région à proie à des violences depuis les années 90.
Oui.
Et donc, on s'est proposé et aujourd'hui, on mène des actions sur le plan national pour exiger plus de transparence, plus de bonne gouvernance, mais aussi et surtout la démocratie et l'état des droits.
La démocratie et l'état de droit, surtout l'engagement, c'est un mot clé. Et l'engagement des Congolais amènerait vers le développement du pays, si tout le monde s'engageait, politique compris. On va mettre la politique un petit peu de côté et s'attarder sur l'axe économique, l'importance du développement économique du pays, qui forcément aurait des conséquences positives sur tous les autres aspects. Alors, l'entrepreneuriat, c'est quand même un moteur de façon générale qui entraîne l'économie de nombreux pays, nombreuses nations, dont la croissance est largement expliquée par le taux et le rythme des innovations et des créations d'entreprises ou d'activités. Où en est la RDC en matière d'entrepreneuriat?
Alors, la RDC essaie de mener des réformes
oui.
pour pousser les jeunes à l'entrepreneuriat, pour pousser les acteurs congolais à s'engager plus dans ces domaines porteurs de la croissance économique.
Oui.
On voit clairement que les jeunes, surtout que moi je connais, sont en train d'innover à travers plusieurs startups
ah oui, hein,
oui. dans divers domaines, mmh. soit dans le domaine du numérique,
oui.
soit dans le domaine agricole, dans oui. le domaine de la technologie, ou alors même dans les services.
Mmh.
Il y a quand même des jeunes qui essaient de se lasser pour profiter de ces climats liés à la mondialisation, mais aussi et surtout de pouvoir gagner leur vie.
Oui.
Parce que le taux de chômage qui est très élevé dans beaucoup de pays d'Afrique, y compris la RDC, et les jeunes qui ont étudié, que ce soit ceux qui ont étudié dans la diaspora, donc à l'étranger, mais ceux qui ont étudié aussi au Congo, essayent de créer de petits emplois ou alors de petites entreprises. Ça peut être des entreprises informelles pour la plupart au débit.
Oui.
Mais après, avec le temps, ces entreprises se formalisent et deviennent de micro-entreprises qui peuvent empocher deux ou trois personnes
mm-hmm.
afin de participer à la croissance économique de la RDC. Donc moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Moi, je vis mes amis à moi
oui.
qui sont au pays, qui quand même investissent dans les restaurants, investissent dans les transports, investissent dans les services, investissent dans les coachings, dans divers domaines
oui.
portés de croissance. Et ça me fait de l'espoir pour ces pays-là.
Oui.
Parce que quand même, depuis très longtemps, les gens pensaient qu'on ne peut que gagner sa vie si on s'engageait politiquement. Mais là, on sent quand même une jeunesse qui se tourne vers l'entrepreneuriat et c'est un mot fort qui peut porter la croissance vers le développement économique. Il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent, que ce soit à Kinshasa ou à Goma ou,
ouais.
ou à Bukavu, même à Lubumbashi et à Kolwezi. On sent vraiment des jeunes qui veulent participer à cette croissance économique de la RDC. Et surtout, il y a une nostalgie des jeunes qui veulent ne pas laisser le pays d'Allemagne d'une économie extravertie portée par les étrangers. Il y a une forte présence des Libanais, des Indo-Pakistanais, des Indiens
oui.
qui sont dans les gros business,
oui.
comme on peut le dire. Mais il y a des jeunes qui veulent aussi, d'ici 20 ans, être ces gros opérateurs économiques de la RDC. Et donc, et on sent aussi du côté gouvernement, il y a certains efforts qui sont fournis.
Oui.
pour qu'il y ait des structures d'accompagnement, des mécanismes d'accompagnement structurels, mais aussi l'accès au crédit bancaire, pour que ces jeunes puissent être à même de compétir pour gagner les offres d'emploi, pour gagner les marchés. Cet effort est fourni par les uns et les autres et je pense que ça va continuer.
Oui.
Personne ne pourra stopper cette vague de jeunes qui veulent participer.
Bon, on l'espère et justement, on y reviendra sur, pour ceux, ces jeunes congolais du pays ou en France, la diaspora, comment participer à cet effort. Vous parlez de structures aidantes en matière d'entrepreneuriat sur le sol de la République démocratique du Congo. Il y a l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui, elle, est beaucoup présente. Elle a mis en place une formation à destination des jeunes qui viennent des milieux qui sont modestes pour les doter d'outils nécessaires pour la création et le développement d'entreprises. Il faut savoir qu'à ce jour, il y a un quart de ces jeunes qui ont reçu une formation de base en entrepreneuriat, qui a finalisé un plan d'affaires et qui leur permet du coup de lancer leur propre entreprise. Comment on peut faire pour doubler cette statistique selon vous ?
Il faut que le gouvernement congolais puisse solliciter tous ses partenaires étrangers, au niveau aussi continental, pour qu'on multiplie ce genre d'initiatives, parce que quand même le Congo c'est un pays majoritairement jeune.
Oui.
Et on doit alléger les critères d'adhésion à ces formations-là.
Mm-hmm.
Parce que rappelez-vous que la plupart de ces offres de formation sont faites à l'Internet.
Oui.
Et il y a une majorité de la jeunesse congolaise qui est exclue à tout ce qui est accès au numérique.
Parce exactement, que, la fracture numérique, on va parler dans un instant.
Voilà, elle est importante. Mm-hmm. Du coup, il faut quand même aller même dans les milieux les plus reculés, où les gens n'ont pas forcément de smartphone, les gens n'ont pas accès à Internet 24/24, mais pour qu'ils participent aussi à capter à ces formations-là. Mm-hmm. Donc, pour multiplier cela, il faut alléger les critères de sélection d'abord, aider, il faut aller dans les milieux aussi reculés pour que tout le monde soit à mesure de compétir et de s'exprimer à travers ces talents.
Oui. Comment faire en sorte d'offrir plus d'opportunités aux jeunes des milieux justement défavorisés ? En dehors de ce que vous venez d'évoquer, comment on peut relier justement les villes entraînées, les villes rurales et les villes urbaines pour permettre à un maximum de jeunes qui vivent dans les zones reculées et de façon modeste de prendre part justement à des projets d'entrepreneuriat ?
La première variable à considérer, c'est l'allègement des critères et des conditions d'ouverture, de création d'une entreprise au Congo.
Administrativement, c'est compliqué ?
Oui, ça semble être compliqué. Il y a beaucoup de formalités qu'il faut remplir. Et casser aussi toute la corruption qui émerge tout autour de ces formalités-là. C'est-à-dire que l'État doit assainir ces milieux-là, doit pouvoir créer des guichets uniques qui permettent que tout citoyen porteur de projet soit à mesure de créer son entreprise dans les conditions minimales possibles.
Et vous pensez que dans ce domaine-là, l'État pourrait faire preuve de transparence, justement ?
Oui, l'État peut faire preuve de transparence. L'État peut décentraliser les guichets uniques qui sont chargés de création des entreprises.
Oui,
on n'est pas obligé d'aller dans les grands centres urbains pour créer une entreprise.
Mm-hmm.
On peut décentraliser ce secteur-là. Mais aussi, l'État doit aller chercher les jeunes dans les milieux ruraux. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui étudient dans les universités dans les milieux ruraux, il y a des jeunes qui ont des idées dans les milieux ruraux, il y a des jeunes qui pratiquent l'agriculture dans les milieux ruraux. Il faut que l'État aille chercher ces jeunes-là.
Ouais.
Comme ça se faisait à l'époque, à travers des agents de l'État. À l'époque, il y avait des commissaires de l'État qui allaient village par village pour aller voir est-ce qu'il y a des innovations qui ont été faites dans les domaines agricoles, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la pêche, pour que toutes ces personnes-là, pour thèse de ces idées, soient intégrées au circuit de l'entrepreneuriat. Deuxième des choses, c'est que l'État doit pouvoir les offrir des conditions minimales pour accéder au crédit bancaire.
Oui, et dans ces conditions minimales, qu'est-ce que vous voyez ?
C'est-à-dire que l'État doit se porter garant auprès des banques pour que donne ces jeunes-là la possibilité d'accéder à un crédit, bancaire. À Goma où j'étais, après le volcan, j'ai vu beaucoup de jeunes qui entreprenaient dans divers secteurs qui sont tombés en faillite.
Oui.
L'État n'a pas fourni un effort de les sortir de la crise après le volcan. Il faut trouver des mécanismes pour alléger la fiscalité pour ces jeunes. Comment voulez-vous des jeunes qui ont créé des restaurants VIP dans le centre urbain de Goma ou des jeunes qui ont acheté des petites voitures pour faire les taxis urbains du type moderne comme Itch ou autre, voilà.
Mm-hmm.
Mais ces jeunes sont confrontés à des fiscalités qui sont très élevées alors qu'ils n'ont pas forcément l'équilibre pendant la période post-crise.
Oui.
Et nous, on a demandé qu'on puisse voir dans quelle mesure soutenir ce jeune pendant 6 mois pour dire vous ne payez pas la fiscalité, l'État devrait le mettre. Mais ça n'a pas été le cas. Mm-hmm. Ça n'a pas été le cas. Du coup, la plupart de ces jeunes-là sont tombés à faillite.
Le digital pourrait stimuler l'innovation, la croissance économique et la création d'emplois dans de nombreux secteurs clés de l'économie, forcément. Alors, la promotion de la transformation numérique en RDC, elle pourrait permettre d'optimiser l'influence dans des domaines comme la santé, l'énergie, le transport, l'agriculture, l'éducation. Ça pourrait faciliter l'accès aux services sociaux de base. Bref, ça mettrait la RDC complètement à jour. Vous êtes d'accord avec moi, bienvenue Matumo?
Oui, je suis parfaitement d'accord que la digitalisation va booster la croissance économique de la RDC. En ce sens que les gens ont plus accès à l'information, ont plus accès au marché à travers Internet. Mm-hmm. Parce que les gens peuvent compétir, les gens peuvent ficeler leurs dossiers pour être compétitifs. J'ai vu que le gouvernement congolais essaie de mettre en place un certain nombre de réformes mm-hmm. pour que la pénétration de l'Internet soit effective, pour qu'il y ait un taux assez élevé de la pénétration, mais aussi pour que les jeunes sachent utiliser dignement et correctement oui. l'accès au numérique. Donc, pour dire, il faut que l'État investisse beaucoup dans la connexion à l'Internet à travers tout le pays.
Ouais.
On a une partie littorale de la RDC. Voilà. Mm-hmm. On peut se connecter à la fibre optique. Ça permettra que les Congolais puissent avoir non seulement accès à l'Internet, mais surtout avoir un bon débit. Parce que plus les gens se connectent, plus les gens, les opérateurs auront tendance à numériser les services, parce que quand même, il faut noter qu'il est difficile d'avoir des informations sur beaucoup de services au Congo parce que les gens sont découragés du fait que ça ne sert à rien de mettre du contenu sur Internet et si les gens ne peuvent pas avoir l'Internet pour venir lire vos informations sur Internet. Donc, l'effort doit être fourni, donner l'Internet à tout le monde pour que les uns les autres, y compris le gouvernement, puissent publier ces documents, ces démarches sur Internet, afin que même celui qui n'est pas à Kinshasa soit à mesure de se connecter. Parce que le Congo, il est grand. Hein, quand même, c'est 2 345 000 km². Et si on ne puisse pas dématérialiser l'administration publique au Congo, ça va être difficile. Il y a certains services, pour les avoir, il faut absolument aller à Kinshasa.
Oui.
Et donc, si un jeune il est à Goma et veut ouvrir une entreprise, on demande un document qui doit être fourni par l'administration centrale, ça pose énormément de problèmes. Mais si le service est dématérialisé, ça permet même de ce village où il est, il peut toujours accéder à l'Internet et demander les services.
Et plutôt que de faire appel à des investisseurs étrangers, pourquoi pas faire appel à des investisseurs de la sous-région? Il a rejoint la communauté d'Afrique de l'Est, qui a officialisé du coup mardi dernier l'entrée de la RDC dans cette organisation sous-régionale. Donc il y a le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Selon vous, qu'est-ce que ça va apporter essentiellement à la RDC, cette nouvelle coopération?
Alors, déjà, il faut le dire, dans les faits, la partie Rwanda du pays était intégrée à ces nombreux jeunes qui entretiennent de très bonnes relations économiques au lieu d'affaires avec ces pays-là. Moi, je connais beaucoup d'amis qui sont toujours en relation commerciale ou économique ou en relation d'affaires avec beaucoup de jeunes burundais, tanzaniens, kenyans, rwandais, parce que ce sont des intérêts communs. Et donc, et aussi, on a la facilité de la langue, la langue qui est aussi un moteur important dans l'intégration économique de cette région-là. Et donc, facilement, quelqu'un de Goma comme moi qui parle swahili, je me sens à l'aise pour faire des affaires dans cette région-là.
Oui.
Donc, ça va permettre que plus de jeunes puissent aller faire des affaires avec ces pays, parce qu'on va casser la frontière, on va casser tout ce qui est visa, qui était aussi un blocage assez important.
Oui.
Mais là, comme tous ces documents administratifs demandés à la frontière sont cassés, j'imagine que beaucoup de jeunes vont pouvoir tisser des liens commerciaux avec des jeunes de la sous-région. Et ça va permettre aussi de taire la guerre et, faire la paix dans cette région.
Oui, bah oui, c'est l'occasion d'offrir des opportunités justement de coopération pour le bien-être de tous, en tout cas dans cette région et dans le pays, pour le bien-être aussi et surtout des populations. Je vous parlais de l'OIT tout à l'heure, l'Organisation internationale du travail, qui dit qu'offrir des opportunités d'emploi décent aux jeunes, ça contribue à la paix sociale et à l'équité. Alors, quelle voie pour la paix sociale en République démocratique du Congo, selon vous, bienvenue Matumo?
D'abord, je suis d'accord avec l'affirmation de l'OIT.
D'accord.
Si on a déjà du revenu, on ne peut pas vivre à conflit, parce que c'est le manque de revenu, les inégalités, lorsqu'elles sont croissantes dans la société, qui aboutissent à des conflits et par conséquent, en l'instabilité sociale.
Oui.
Donc, si quelqu'un sait qu'il peut quitter le matin pour aller travailler et avoir des revenus la fin du mois, il va être dans une situation de paix sociale. Mm-hmm. Mais par ailleurs, au Congo, il faut le noter, il y a quand même, je l'ai dit au début, un taux de chômage qui est très élevé.
Oui.
Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, c'est que l'éducation n'est pas accessible à tout le monde. Il y a une part importante des jeunes qui est exclue à l'éducation parce que les conditions de vie sont difficiles. Par conséquent, les parents ne peuvent pas payer les frais minervales pour ces jeunes-là. Mais cette jeunesse qui essaie de se battre pour étudier peut être, à mon sens, soutenue et accompagnée pour qu'elle puisse créer des entreprises ou alors que cette jeunesse puisse avoir accès au marché. Mm-hmm. Moi, je dis toujours, tout le monde n'est pas obligé de créer une entreprise.
Oui.
Il y a ceux qui peuvent travailler pour les autres.
On peut être salarié aussi.
Oui, on peut être salarié, voilà.
C'est déjà une bonne situation.
Oui, ouais, voilà. Donc, on peut être salarié et... Encore une fois, dans cette condition-là, l'État doit faire un effort pour parler aux employeurs de faciliter que les jeunes puissent accéder au marché. Ça signifie que, et moi, c'est mon approche que j'essayais toujours aux autorités congolaises, des fois. Et il me semble qu'on devait connecter les entreprises congolaises à l'université.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, l'université est déconnectée de l'entreprise congolaise ou bien des entreprises au Congo. Ce qui fait que parfois, les enseignements ou bien les théories qui sont proposées dans des facultés ne sont pas en corrélation avec les besoins du marché. Et du coup, on a des jeunes qui sont formés à l'université, mais qui ne peuvent pas prester dans les entreprises parce que ces jeunes n'ont pas les compétences nécessaires. Donc, à mon sens, il faut que l'État puisse créer cette collaboration entre l'université et l'entreprise, mais aussi amener les étudiants dans une démarche plus pratique que théorique. Hein. Surtout ceux qui sont dans le domaine pratique, dans l'informatique ou, je ne sais pas moi, économie. Et dans les sciences techniques, hein, on devait pousser ces jeunes-là de ne pas se limiter qu'à la théorie, d'aller plus dans la pratique. Et quand on pratique, on a la chance de se retrouver et de créer sa propre entreprise.
L'entrepreneuriat, c'est la clé du développement économique en République démocratique du Congo.
Oui. Il faut que l'État puisse faire la promotion de l'entrepreneuriat. Surtout, moi, j'aime bien l'entrepreneuriat orienté vers les femmes, parce que les femmes, lorsque elles tiennent des entreprises, elles sentent la rigueur avec laquelle elles gouvernent ces entreprises-là. Donc, vous pouvez plus encourager les jeunes femmes à accéder au crédit bancaire pour mettre en place des projets. Et à mon sens, c'est aussi lutter contre les inégalités entre l'homme et la femme et combattre les préjugés qu'il y a sur la femme au Congo. Et l'autre aspect, c'est que l'État devait pousser les entreprises à créer ces collaborations avec les universités. Et aussi, à mon sens, c'est... L'État maintenant devait fournir des efforts qui sont vraiment importants dans l'aménagement du territoire pour que les territoires soient connectés, les provinces, les villes soient connectées entre elles, pour que celui qui produit du maïs dans un village au Nord-Kivu soit mesuré d'aller le vendre dans un marché dans le Sud-Kivu si c'est nécessaire. Et je l'ai dit, l'État aussi devait se rassurer que ceux qui ont eu accès au crédit puissent nécessairement mettre en œuvre les projets pour lesquels ils ont eu les crédits et surtout les accompagner dans l'écoulement de leurs biens ou de leurs services. Je le conçois comme un système de raisons dans lequel l'État joue un rôle en amont, pendant et en aval. Et les partenaires du Congo, la Banque mondiale, la FMI, même la Banque africaine de développement, qui soutiennent aussi les jeunes Congolais à travers le financement des projets au niveau compétitif, devait s'inscrire dans ce système-là, dans lequel chacun joue sa partition. Et d'ailleurs, il y a aussi des hommes d'affaires. Le Nigeria, propriétaire de la banque de l'UBA, qui chaque année, il recrute, je crois, 1000 jeunes en Afrique qui viennent de divers pays pour leur donner un financement, je crois, de 1000 euros par personne pour venir investir. Et donc ça, c'est...
Très belle initiative.
C'est une très bonne initiative et j'en appelle d'ailleurs aux hommes économiques congolais de pouvoir ouvrir ce genre de fellowship pour que les jeunes soient mesurés de compétir et surtout aller dans les milieux ruraux pour ne pas créer l'exclusion et la fracture entre la ville et la campagne.
Alors, est-ce qu'on est sur la même tonalité pour la partition de la diaspora ? Quel rôle et quel morceau de la partition doit-elle jouer, la diaspora congolaise ?
Aujourd'hui, la diaspora congolaise joue un rôle de soutien ou des appuis au niveau de la famille.
Au niveau de la famille, essentiellement.
Essentiellement, c'est à ce point-là que chaque membre de la diaspora essaie d'envoyer des aides à sa famille restée au pays. Il y a quand même certains membres de la diaspora qui mettent en place des projets au niveau individuel.
Oui, bien sûr.
C'est créer une école, c'est créer un centre de santé, c'est encadrer les jeunes dans des structures d'alphabétisation ou bien des luttes contre les violences faites à la femme. ou des orphelinats. Il y a pas mal d'initiatives qui sont portées par les jeunes, portées par la diaspora congolaise. Mais ce qui manque, c'est une politique globale de la diaspora pour investir au Congo.
Oui.
Et là encore, l'État doit jouer un rôle, doit nous donner un espace par lequel nous la diaspora, même si moi je ne me considère pas la diaspora, c'est de la diaspora, vont venir investir dans un secteur clé pour dire, vous avez des capitaux, si vous ramenez vos capitaux, vous serez défiscalisé par exemple à 10% ou à 20%, et nous vous conseillons d'investir dans tel domaine dans lequel on a besoin des expertises des gens qui vivent dans les pays industrialisés, où vous avez accès à plus de compétences que nous. À ce moment-là, les gens vont venir investir, sachant qu'ils ont des mesures incitatives qui les permettent de ne pas être tracassés, de ne pas être objet de...
Qui facilitent tout simplement.
Oui, oui, des mesures de facilité qui sont mises en œuvre par l'État pour permettre aux gens-là de venir investir et être accompagnés par l'État. Oui. Parce que le grand problème, moi j'ai discuté avec beaucoup de Congolais qui vivent ici, ils investissent au Congo, après il n'y a pas de suivi de l'État, ou alors les personnes par lesquelles ils ont investi ne sont pas crédibles et ça décourage. Donc il faut que l'État mette en place des cadres qui permettent aux uns et aux autres de venir investir et avoir accès aussi au crédit au Congo. Quand je viens, il faut que l'État m'accompagne sur la fiscalité, parce que j'amène des capitaux. Quand j'amène des capitaux, il faut que je sois accompagné pour que je ne puisse pas être taxé comme d'autres. On peut dire, bon, nous, on veut vous encourager à ramener les capitaux parce que vous allez créer de l'emploi. L'emploi, ça donne des richesses.
Non, c'est donnant-donnant.
C'est donnant-donnant. Il faut qu'il y ait ces mesures-là. Mais aujourd'hui, ça ne semble pas être le cas. Moi, personnellement, avec quelques amis, on a essayé de le faire, mais l'État est trop dur contre ceux qui viennent.
Bienvenue, Matomo. Vous avez une minute. Pourquoi choisir la RDC? Et puis, votre mot aux auditeurs à la fin.
Le Congo, c'est le pays d'avenir. Franck Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un réservoir et la gâchette se trouve au Congo. Je pense qu'il n'avait pas tort. Et si la diaspora congolaise pouvait se mobiliser, s'organiser peut-être un plus mieux qu'aujourd'hui, et aller demander des facilités à l'État congolais, je pense que les facilités peuvent être obtenues. À ce moment-là, les gens vont ramener les capitaux au pays, investir dans divers secteurs. Moi, je pense qu'il ne faut pas seulement se cantonner dans les secteurs miniers. Tout le monde veut aller investir dans les mines, alors que ça demande beaucoup de capitaux, beaucoup de démarches, alors qu'on peut investir dans d'autres secteurs.
Et puis c'est un secteur très conflictuel.
Oui, voilà. Alors qu'aujourd'hui, on est quand même dans les secteurs tertiaire, quaternaire, l'immatérialisation des choses. On peut investir dans beaucoup de domaines. Nous sommes un pays agricole par excellence.
La création de services aussi.
La création de services. On peut investir dans le domaine agricole. On peut investir dans l'élevage. On peut
investir dans le secteur éducatif
et dans le secteur sanitaire. On peut investir dans le tourisme. Donc, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on peut investir, dans les transports urbains, dans les transports interurbains, dans les transports intervillages. Donc, on a beaucoup de secteurs dans lesquels on peut investir. Et plus on investit chez nous, plus les gens vont avoir accès aux revenus et les gens vont avoir une paix sociale. Et quand on a la paix sociale, on ne fera jamais la guerre. Et tous ces jeunes qui sont dans les groupes armés à l'est du pays vont désarmer parce qu'on va demander les gars, à la place d'aller dans les groupes armés, venez travailler, venez bosser pour votre pays, vous aurez des revenus et c'est la croissance du pays qui sera portée haut. Et naturellement, les pays vont se lasser sur le développement.
Vive la paix sociale, vive la RDC. Merci, bienvenue Matomo, militant de Lucha, lutte pour le changement. Vous êtes aussi chercheur en géographie sociale et politique à l'Université Paris 8 de Saint-Denis, en région parisienne. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous souhaite une bonne journée à l'écoute d'Africa Radio. À bientôt.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Un plaisir.
Mieux vivre au 21e siècle sur Africa Radio.